Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Hélène Schmor.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Comme d'habitude, je tiens à remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets socio-écologiques et culturels. Moi, c'est un partenariat crucial qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, donc je leur dis merci. Hélène, toi, tu es chargée de développement de finances participatives chez Zest. Zest, c'est une plateforme de crowdfunding dédiée au projet de la transition écologique et solidaire, créée par la NEF d'ailleurs. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous parlerons ensemble de notre capacité à reprendre notre pouvoir de consommatrice et de consommateur, de la différence entre nos envies, nos besoins et plus généralement de comment soutenir les initiatives qui sont déjà en 2030 glorieuses mais qui ont besoin en 2022 d'aide pour changer d'échelle. Pour commencer cet échange, Hélène, je te pose la question que je pose à tous mes invités désormais, c'est un rituel. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes que tu rencontrerais pour la première fois dans un événement, dans une soirée et qui te posent cette fameuse question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»
Alors, ce que je réponds en général, c'est que je travaille en tant que coach projet chez Zest par la NEF. C'est mon autre nom de poste au-delà de chargé de développement de la finance participative. Et donc, Zest par la NEF, c'est effectivement la plateforme de financement participatif de la NEF pour les projets culturels ou de la transition écologique et solidaire.
Ouais, j'aime bien cette notion de coach de financement participatif parce qu'effectivement, quand on dit chargé de développement, on a cette vision presque un peu commerciale, non ? Alors que coach, il y a une notion d'apprentissage, d'accompagnement et c'est quelque chose qui est très présent dans ton quotidien. Hein.
Exactement, c'est ça. En fait, ça commence par beaucoup d'écoute des porteurs de projets qui viennent nous contacter parce qu'ils recherchent des fonds. Donc, on est là pour les accompagner en premier lieu, pour vérifier que le financement participatif qu'on propose puisse bien correspondre à leurs besoins et à leurs contraintes également. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de conseils et d'accompagnement. On propose un suivi presque quotidien des porteurs de projets. Et des fois, c'est même de la remotivation parce que c'est un peu compliqué, les campagnes de financement participatif. On va demander de l'argent à nos proches et à des inconnus et ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles. Et parfois, on a des porteurs de projets qui ont des doutes, qui se disent « on va jamais y arriver », alors que nous, on sait que s'ils baissent les bras, c'est sûr qu'ils vont jamais y arriver.
Ouais, justement, moi j'ai plein de questions sur ton quotidien, sur ton parcours aussi, ça m'intéresse parce que je suis assez curieux de savoir comment on en vient à devenir coach de financement participatif. Mais avant ça, je t'entendais en parler et je me suis dit, tiens, est-ce que par hasard, parmi toutes les personnes qui nous écoutent, il y a encore une ou deux personnes qui ne savent pas ce que c'est le financement participatif, auquel cas, est-ce que tu peux succinctement là, nous expliquer en quoi ça consiste, s'il te plaît ?
Alors, le financement participatif, c'est aussi ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est ce qui va permettre à des porteurs de projets et parfois même à des particuliers, mais alors pas sur Zest, de lever des fonds, de lever de l'argent. Donc, en faisant appel à des personnes, une communauté qui va être autour d'eux. Donc ça peut être les proches, ça peut être des entreprises aussi, ça peut être des inconnus. Et au-delà de cet enjeu de lever des fonds, il va aussi y avoir un enjeu de communication. Le financement participatif, c'est ce qui peut aussi permettre de communiquer énormément sur son projet, justement pour intéresser des inconnus et parfois pour annoncer que ce beau projet va se réaliser très bientôt.
Oui, c'est vrai que le financement participatif, en t'écoutant, je me rendais compte que si peut-être pas tout le monde, et d'ailleurs je serais assez curieux de savoir si tu as des chiffres à ce sujet-là, peut-être que pas tout le monde n'a participé à une campagne de financement en mettant quelques euros ou plus, et à la fois la campagne étant longue, avec beaucoup de communication, on a sans doute tous et toutes à un moment ou à un autre entendu parler d'une campagne en cours, presque été sollicité par quelqu'un de notre famille ou de notre entourage, parce que tu l'as dit au début, on va toucher notre premier cercle pour lancer la dynamique. Et donc finalement, c'est aujourd'hui très visible ces campagnes de crowdfunding, même si tu vois... Le chiffre que j'ai à ce sujet, c'est qu'en France, il y a eu 1,88 milliard de fonds qui ont été collectés en 2021 grâce au financement participatif. Donc à la fois, j'ai l'impression que comme ça, tout de suite, on parle de milliards, ça fait beaucoup. Et à la fois, bon, en fait, quand on le confronte aux milliards et aux centaines de milliards qui sont dépensés par les Français chaque année pour tout un tas de produits, d'objets qui pourraient rentrer dans une campagne de financement participatif, c'est assez dérisoire. On parle quand même, et je termine avec ce chiffre, de 168 712, c'est très précis. Il y a eu un baromètre 2021 du crowdfunding en France qui a été fait. Et donc, on parle de en gros 170 000 projets qui ont été financés en 2021.
Oui, c'est ça. Ça reste assez anecdotique, mais presque tous les Français connaissent de près ou de loin le financement participatif des projets qui en ont bénéficié, en tout cas. Après, c'est vrai que c'est pas le mode de financement principal. D'ailleurs, nous, on conseille plutôt à nos porteurs de projets de voir ce financement participatif comme un complément ou un bonus à leur financement en général. Mais c'est vrai que ça fait son petit bonhomme de chemin. On a de plus en plus de projets qui lèvent des fonds en financement participatif. En général, c'est un secteur qui se développe, qui a une croissance rapide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, il y a toute une législation qui se fait, qui se construit autour de ce financement participatif en Europe.
On va en reparler hein, parce que en fait, justement, 2030 Glorieuse avec le guide des conversations utopiques qui a été lancé l'année dernière grâce à une campagne sur Zest a vécu ça. Et donc, il y a plein de choses à dire sur le crowdfunding qui est particulièrement dédié aux porteurs de projets écologiques et solidaires, sur cet accompagnement qui nous permet de détricoter un peu les leviers de la croissance, de la compétition, de l'accumulation et de remettre en fait ce qui a été longtemps vu comme des porte-monnaie sur pattes. En fait, nous, les citoyens, on a longtemps été renvoyés un peu dans les cordes de la simple consommation. Et là, je trouve qu'avec le financement participatif, on revient au cœur, on devient partie prenante. Et donc, il y a plein de choses que j'ai envie de raconter par rapport à ça. Et à la fois, je te le disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse aussi dans les interviews, dans les échanges, c'est de savoir un peu comment on en vient à. Et si il y a des parcours de vie qui sont assez évidents parce que, je dis n'importe quoi, il y a eu des invités qui me disaient que leurs parents, leurs grands-parents venaient de la fête. Mais donc eux, ils ont continué à explorer ces sujets. Toi, tu vas pas pouvoir me dire que tes parents et tes grands-parents viennent du crowdfunding. Donc raconte-moi un peu comment t'en es venu à t'intéresser à ce domaine et quel est ton parcours et comment un jour on se dit bah tiens, bien sûr, je vais être coach en crowdfunding.
On se réveille pas un matin en se disant ça déjà. C'est un métier, je pense qu'on n'est pas beaucoup en France à le faire. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai toujours grandi dans cet univers de l'engagement. Je crois, ma mère, par exemple, était ergonome. Actuellement, elle est agricultrice bio et dans une ferme qui n'est pas très loin de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'était un terreau assez fertile pour me dire que ben, il y avait beaucoup de choses à faire pour respecter davantage le vivant. Après, sans pour autant me dire « oui, ben, ça passe par la finance ». Au contraire, j'étais assez jeune. À aucun moment, je me suis dit que j'allais travailler dans la finance pour le vivant.
Oui, c'est ça. Hein. En général, ça paraît presque antagoniste.
Exactement.
Hein.
Oui, oui. Et j'ai été très surprise. En fait, j'ai fait des études de communication, donc pas du tout de finance. Comme quoi, on peut être coach projet en ayant fait plein de choses différentes. Et pendant mes études de communication, du coup, j'ai trouvé un stage dans une plateforme de financement participatif qui n'est pas Zest, qui était une plateforme en investissement. Et c'était 50% de communication et 50% d'accompagnement de porteurs de projets. Donc, j'ai débarqué à 20 ans, je crois, là-dedans, à conseiller des porteurs de projets qui voulaient lever des dizaines de milliers d'euros. Donc, c'était un peu la panique au début. Et puis, ça s'est très bien fait finalement. Et ensuite, je suis arrivée à Lyon pour mon master et mon objectif, c'était d'intégrer l'ANEF. C'était vraiment mon rêve, plutôt en tant que chargée de communication. Donc, j'ai un peu créé des ponts et finalement, j'ai fini mon master, j'ai cherché du travail et j'ai découvert cette offre d'emploi qui semblait faite pour moi finalement, parce que c'était chargée de développement de la finance participative, quelque chose que j'avais déjà fait et dans la boîte de mes rêves.
Alors tu l'as dit, hein, aujourd'hui, des coachs en crowdfunding, il n'y en a pas des masses. Je pense qu'effectivement, si vous êtes allez, une centaine à tout casser en France, c'est le maximum. Et à la fois, le podcast 2030 Glorieuse, justement, il a pour mission d'identifier les signaux faibles des mondes de demain. Donc je pense que bientôt, il y aura... Je ne sais pas si ce sera des cursus spécialisés dans ce domaine-là, mais sans doute, en tout cas, des spécialisations, par exemple, comme tu le disais, en école de communication, peut-être en école de commerce, parce que je pense que le crowdfunding, il va continuer à largement se développer et en plus, il a plein de facettes, parce qu'on a aussi le crowd lending, le crowd acting, il y a plein de manières de remettre le citoyen, la citoyenne au centre d'une consommation qui soit en fait plus vertueuse, plus limité, plus sobre, plus raisonné, mais donc aussi peut-être plus efficace. On en reparlera peut-être tout à l'heure quand on voyagera ensemble en 2030 glorieuse. Tu disais que toi, tu arrivais à Lyon avec cette envie très claire de travailler pour la NEF. Et du coup, moi, j'allais te poser la question qui a peut-être un tout petit peu moins de sens, mais tu as découvert cette offre de poste de Zest. Pourquoi c'était, tu dis, ta mission de rêve. Pourquoi le poste, il était créé pour toi et pourquoi finalement Zest plutôt qu'une autre plateforme de financement participatif? Parce que c'est vrai, quand on pense au crowdfunding, on pense à KissKissBankBank, à Ulule, à des gros bateaux, un peu moins à Zest en fait. Hein.
Tout à fait. Alors Zest est moins connu que d'autres géants du financement participatif. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'une part cet engagement d'accompagner uniquement des projets à impact, donc impact environnementaux, sociaux et culturels, et d'autre part le fait que c'était une petite équipe qui travaillait sur Zest. Alors ça veut dire qu'on a beaucoup de travail, on est très polyvalent, mais on peut aussi développer énormément de choses et du coup faire évoluer la plateforme, faire évoluer nos postes aussi. Et c'est ça qui me plaît. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est relié à ma génération ou à la façon dont j'ai grandi avec une mère qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais je ne me vois pas faire les mêmes missions tous les jours, toute ma vie. Et du coup, là, c'est ce qui m'a intéressée avec Zest, c'est de me dire qu'en fait, c'est facile de faire évoluer mon poste. Et je l'ai déjà fait, donc toujours en gardant ce noyau d'accompagner les projets. Mais ça s'est développé d'une façon où maintenant je peux aussi développer les partenariats de Zest. J'ai un aspect plus communication et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de choses à développer sur Zest et c'est ça qui est intéressant. En plus de justement me dire que je peux échanger au quotidien avec des porteurs de projets à impact, moi je crois que c'est vraiment ça qui m'anime.
Pourquoi finalement la NEF, elle ne s'est pas contentée, si je peux le dire comme ça, de son rôle de banque et de proposer des moyens pour les épargnants de donner du sens à cet argent, justement parce que en fait il faisait le lien avec des porteurs de projets qui venaient emprunter. Pourquoi cette envie de proposer d'autres manières de donner du sens à son argent? Pourquoi c'est devenu évident? Est-ce que tu as la réponse à ça?
Oui, c'est devenu évident parce qu'on nous l'a demandé. En fait, c'est les clients de la NEF qui nous ont fait la demande. Ça vient pas de notre service marketing à la base. On nous a demandé plusieurs fois si c'était dans les tuyaux de lancer notre plateforme de financement participatif. Et comme c'est une demande qui a été répétée, on s'est dit bah, pourquoi pas en fait. Et donc on l'a lancé officiellement en 2016 après deux grosses années de travail.
Et comme je le disais tout à l'heure, les 2030 Glorieuses, la galaxie des 2030 Glorieuses a pu prendre une nouvelle ampleur grâce à Zest, justement, puisque en 2021, on a lancé une campagne de financement participatif qui a duré 30 jours ou 45 jours de mémoire, je ne me souviens plus, ça y est, mais qui en gros permettait de financer ce kit des conversations utopiques pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse jouer à reprendre le pouvoir des imaginaires et hacker un peu l'espace, je sais pas, avec son entourage, avec sa famille, avec ses collègues, pour pouvoir avoir ces conversations plus optimistes, plus ambitieuses sur tous les caps à atteindre et tout ce qu'on avait à gagner dans les sociétés durables et solidaires de demain. J'ai profité d'un super accompagnement, et d'ailleurs, si Aurélie nous écoute, je la salue. Et là où je me suis senti presque comme à la maison, c'est parce que avec Zest, j'ai senti que, en plus d'effectivement de proposer, comme tu le disais, un accompagnement sur mesure, hein, c'est vraiment presque du quotidien. Vous êtes là beaucoup pour remettre de l'énergie parce que c'est du temps, et j'aimerais que tu me racontes un peu pourquoi c'est du temps et pourquoi on n'imagine pas à quel point c'est de l'énergie aussi, une campagne de financement participatif. Vous avez en plus de ça un rôle de d'y aller, on va dire, mollo. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça m'a agréablement surpris de voir qu'en arrivant sur cette plateforme, on ne me poussait pas à avoir un chiffre qui était hyper important pour casser des records, pour dépasser les limites. En gros, c'était vraiment du sur-mesure et pas cette logique de compétition et de grand, grand, grand succès à tout prix.
Oui, on a souvent cette impression que le financement participatif, c'est magique, c'est les autres qui donnent de l'argent et on va collecter très facilement des dizaines de milliers d'euros pour lancer un projet, et qu'il suffit aussi de mettre en ligne la campagne pour que les gens arrivent et se disent « Ok, je contribue ». Ça marche pas du tout comme ça. Une campagne de financement participatif, c'est avant tout une campagne de communication. Et on le sait maintenant, la communication, c'est un métier, ou en tout cas, c'est des compétences et surtout du temps. Et c'est ça qui prend le plus de temps, justement, et d'énergie, c'est d'aller communiquer presque tous les jours, ou en tout cas construire et adapter sa stratégie de communication. C'est pour ça que nous, on prend aussi le temps de suivre et accompagner les porteurs de projets qui ne sont pas du tout des spécialistes du financement participatif. Et c'est normal, en fait. Et donc, on leur explique que tout se fait progressivement. On parle beaucoup d'une règle des trois cercles qui paraît un peu contre-intuitive aux porteurs de projets en premier lieu, parce que quand on met en ligne leur campagne, ils ont forcément envie d'en parler au monde entier. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le tout, c'est d'y aller en douceur, mais avec énergie toujours, bien sûr, pour ne pas faire peur à des personnes qui ne connaissent pas le projet ou les porteurs de projets, et donc de leur donner confiance en ayant d'abord une belle dynamique de campagne avec vraiment un premier noyau de proches, puis un deuxième cercle constitué de tout le carnet d'adresses des porteurs de projets, avant d'aller chercher des inconnus avec une belle dynamique de campagne. Et c'est ça qui prend du temps, c'est de se dire quel message je vais envoyer à quel cercle autour de moi, à quel moment de la campagne, via quel canal. Et toujours adapté en fonction de ce qui se passe réellement sur la plateforme. On fait des plans au début, on construit une stratégie et ça va forcément évoluer.
Tu dis qu'il faut communiquer tous les jours, et là, tout d'un coup, on pourrait se dire « Ah ouais, en fait, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Hein. C'est du matraquage, de la communication de partout, créer des nouveaux besoins, répéter encore et encore jusqu'à ce que les gens ils se disent « Bon, il me le faut absolument. » Alors qu'en fait, j'aurais tendance à dire que vous redonnez un peu les lettres de noblesse à la communication, dans le sens où quand on va sur la plateforme de Zest, on voit des visages, on voit des sourires, on voit de la nature, c'est beaucoup plus humain. Et c'est pas une communication qui crée un mal-être, parce que c'est vrai que d'habitude on voit des gens plus beaux, plus heureux, des choses un peu inaccessibles qui nous font nous dire en fait il faut absolument que j'achète pour mon bonheur, pour ressembler à ces gens-là parce que je suis pas assez bien. Alors que là on a plus l'impression qu'au contraire on communique pour montrer qu'on a besoin d'aide, et donc on donne aux autres personnes la possibilité de se mettre dans cette situation d'aidant. Et donc, ça valorise autrement et c'est presque beaucoup plus vertueux, hein, non ?
Oui, en tout cas, j'espère. C'est oui, le but, c'est de rester très humain, justement, parce qu'on est zeste par la nef. Et le but, c'est que l'argent relie les hommes et les femmes. Après, c'est pas du matraquage, comme tu dis, dans la mesure où en fait, on va pas communiquer tous les jours auprès des mêmes personnes. Le tout, c'est de contacter au bon moment les bonnes personnes des trois cercles du porteur de projet. Et ces personnes-là vont être peut-être dans le rôle d'aidant au début, mais c'est aussi le rôle d'acteur. Moi, c'est plus ce que j'aime me dire, c'est que les gens prennent le pouvoir sur leur argent, sur leur territoire aussi parfois, parce qu'on a des projets assez localisés finalement. Et ces personnes vont se dire, alors soit je connais le porteur de projet, soit c'est un total inconnu pour moi, mais je veux faire bouger les choses sur mon territoire. Je peux le faire en donnant, parce que sur Zest, c'est du don avec ou sans contrepartie et de la prévente. Et donc en donnant, je fais évoluer les choses, je permets à un beau projet de se faire, de se créer ou de se développer. Et derrière ça, il peut y avoir une contrepartie ou non. C'est au porteur de projet de décider ce qu'il propose en remerciement des contributeurs. Mais on a des campagnes qui ne proposent pas du tout de contrepartie. Alors, en toute honnêteté, ça fonctionne mieux avec des contreparties, notamment pour aller chercher des gens qui ne connaissent pas le porteur de projet. Mais au-delà du rôle d'aidant, le contributeur va vraiment avoir un rôle d'acteur et de faiseur de possible.
Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, je me rends compte, Hélène, mais en fait, sur Zest, on retrouve beaucoup de projets de lieux, de librairies, de centres où pourront se réunir différentes associations, de relais pour les jeunes, de lieux de démocratie citoyenne. On a aussi pas mal d'alimentation, de projets culturels. Mais c'est vrai que c'est très territorialisé, hein. C'est assez peu de projets, finalement, comme celui que j'ai porté avec vous, qui ont une échelle nationale et qui sont pas ancrés sur un territoire.
Oui, alors il n'y a pas de raison précise pour ça. Une des pistes, ça peut être celle de la communauté des porteurs de projets. C'est vrai que c'est plus facile de mobiliser peut-être sur un territoire donné ou en tout cas de trouver des points de contact avec des potentiels contributeurs qu'on ne connaît pas encore quand c'est un projet plutôt national ou en tout cas sans ancrage précis. Ça veut dire qu'il faut du contact dans toute la France. Et des moyens des relais, on va dire, dans toute la France aussi, pour atteindre plein de personnes différentes. Et c'est ça qui peut être un peu plus compliqué. Mais j'ai pas de certitude là-dessus. Je pense que chez Zest, on n'a pas encore assez de recul pour le dire avec certitude. En tout cas, c'est pas pour autant que ces projets-là ne fonctionnent pas.
Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Alors, je sais que c'est un peu, c'est pas évident comme question parce que l'épisode il va être écouté dès sa publication et donc avec pas trop d'écart entre notre interview et le moment où il sera diffusé et parfois en fait avec beaucoup d'écart parce que les gens l'écouteront 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard donc les projets seront fermés. Mais est-ce que tu peux me dire quand même là peut-être me donner l'exemple de 2 ou 3 projets phares là que vous avez en ce moment sur la plateforme?
Alors, des projets phares, on en a. Le truc, c'est qu'on arrive en été. Et l'été, c'est un peu plus compliqué pour lever des fonds. Donc, on a beaucoup de projets qui attendent la rentrée pour se lancer. On a quand même quelques audacieux qui terminent ou qui lancent leur campagne en ce moment. Les projets que j'aime beaucoup qui sont en ligne actuellement, c'est pour le premier, on a la base. C'est la base d'action sociale et écologique qui est située à Montpellier. Et en fait, c'est un regroupement de 3 associations qui luttent pour le climat et qui veulent créer et équiper leur local pour l'année 2022. Donc, c'est ça qui est bien aussi en financement participatif, c'est que les projets se créent ou vont se développer dans l'année en général, si ce n'est pas dans le mois ou dans la saison qui arrive. Ensuite, on a des librairies indépendantes, on a un festival aussi de musique qui veut lancer sa première scène mobile avec un vélectrogène. Il me semble que c'est bien ça. Et sinon, on a plutôt des projets culturels avec des albums de musique.
Ouais, et tu nous fais un peu de teasing pour des beaux projets qui arrivent à la rentrée.
C'est ça, il faut revenir sur la plateforme mi-septembre.
Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation de ton travail, de ton activité de coach en crowdfunding chez Zest. On va partir en 2030 glorieuse et on va imaginer ensemble à quoi ressemblerait une société où la citoyenne, le citoyen a été remis au cœur de ces processus de production et sont devenus vraiment partie prenante de ces communautés. On n'est plus, ça y est, on sera plus du tout des porte-monnaie sur pattes en 2030 glorieuse qu'on sollicitera à l'infini. Mais avant ça, l'invité vient toujours avec un cadeau qui est une lecture dans laquelle l'invité trouve des valeurs qui lui sont chères et en l'occurrence que toi tu aimerais voir se développer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Hélène ?
Alors, je vais vous lire un extrait du manifeste pour un parti de la fête. C'est un court essai qui a été écrit par Vito Marinez et qui était en pré-vente au printemps dernier sur Zest et qui nous explique à quel point la fête est importante et pas seulement comme moyen, mais aussi comme objectif dans nos vies pour un futur souhaitable. Les utopies auraient fait faillite, et pourtant les utopistes sont toujours debout, persistant à inspirer le meilleur dans un monde en dérive, chargé d'idéaux permettant d'insuffler du sens, de nous réhumaniser, avec en vue un horizon commun pour avancer ensemble. Si le monde part en vrille, c'est que nous avons perdu de vue les moyens de résister chacun à notre niveau et de partager du rêve collectivement. Face à l'éclatement social, savamment entretenu par les pouvoirs en place, il n'y a pas d'urgence plus grande que de nous retrouver pour faire front ensemble. Plus que jamais, dans l'espoir un peu dingue mais tellement vital de faire dérailler le train dans lequel nous sommes embarqués, nous avons besoin de nouvelles utopies, pourvu qu'elles soient concrètes et accessibles, c'est-à-dire que chacun d'entre nous puisse en actionner les leviers. Le monde part en vrille, soit, raison de plus pour en revenir à l'essentiel. Et alors, pourquoi pas la fête ? Parce qu'elle nous donne l'occasion de faire une pause, qu'elle permet au monde de ralentir sa course en offrant à chacun d'entre nous la possibilité de savourer le moment présent. Parce qu'à travers la fête, il s'agit de défendre notre temps de vivre, de se rencontrer, de s'aimer, de jouer, de danser, de trinquer notre plaisir d'être improductif, d'être joyeusement égaux et dignes. Parce qu'elle s'oppose à la productivité, à la compétition. Parce que la fête nous permet d'échapper à cette fatalité du chacun pour soi. Parce qu'elle nous rassemble et nous donne la chance de prendre conscience d'une vérité imparable. Nos intérêts communs sont tellement plus grands. Parce que la fête nous réunit par-delà nos différences, nos origines, nos nationalités, nos âges, nos cultures. Parce qu'elle place au centre ce qu'il y a de plus important. Nous, les autres, nos rencontres, l'amitié, l'amour, la bouffe, la danse, la musique, l'ivresse de la vie tout court. Parce que la fête constitue un but à atteindre autant que le moyen d'y parvenir. Un combat pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Voilà pourquoi la fête constitue un véritable enjeu civilisationnel, parce qu'elle permet de replacer au cœur de nos convictions politiques la certitude que nous sommes ici pour profiter de la vie.
Merci Hélène pour ta lecture. C'est Maxime de Rostolan qui parle souvent de la fête comme l'alpha et l'oméga, comme le moyen et la fin. Et c'est quelque chose qui, me touche dans ton partage et me fait penser à ça. Toi, pourquoi tu as tenu à faire cette lecture ? Qu'est-ce qui résonnait particulièrement en toi ?
Je pense que c'est la façon d'être ensemble. Sur Zest, on a beaucoup de projets à impact environnementaux, sociaux, culturels, mais il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est cette façon de créer des choses ensemble, de vivre ensemble, de partager des moments, et c'est vraiment quelque chose qui me touche au-delà de l'impact qu'on va avoir sur l'avenir, c'est l'impact qu'on a déjà dans le présent, avec les personnes. Et en fait, pour relier ça à mon travail, une campagne de financement participatif, c'est des gens qui vont faire des choses ensemble. Déjà, un porteur de projet ou plusieurs qui vont monter ce projet, parce qu'un projet, ça ne se fait pas tout seul finalement. Et toute cette communauté de contributeurs qui va se mettre en mouvement pour soutenir ce beau projet. C'est vraiment ça qui me touche et c'est ça qui m'a parlé aussi dans cet essai. Peut-être que c'est aussi parce que justement, je suis jeune aussi, j'ai encore beaucoup d'énergie pour faire la fête et que j'arrive ou en tout cas, j'ai pas encore perdu ce réflexe de me dire allez, ce soir, on rencontre des nouvelles personnes, on sort, on va boire un verre ou on va se poser dans un parc avec des amis et discuter de la vie. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Dans son livre, en fait, Vito Marinez parle de tous ces moments qu'on n'appellerait pas forcément fêtes au sens commercial du terme, où il faut consommer pour faire la fête, il faut des boissons, il faut des lumières, des belles tenues. Non, pas du tout. La fête, c'est aussi dans tous les petits moments où on se retrouve ensemble et où il y a des choses un peu inattendues qui se passent et qui créent ou qui vont renforcer du lien et nous permettre d'échanger ensemble sur, pourquoi pas, nos doutes, nos difficultés et nos rêves aussi, nos rêves et nos projets.
Et ben voilà, justement, on est en 2030 glorieuse, ça y est, on va faire le voyage le plus extraordinaire que tu as jamais fait et en même temps le plus écologique, puisque c'est un voyage de l'imaginaire et c'est l'imaginaire qui nourrit nos déplacements, c'est un peu l'énergie infinie qui est en plus complètement décarbonée ou presque. On est en 2030 glorieuse où ce lien, cette manière d'être au monde, d'être à l'autre, d'être ensemble, c'est largement raffermi, resserré, et où faire la fête est une évidence et cultivée même au quotidien. On va en parler de manière la plus détaillée, la plus sensible, la plus colorée possible pour faire en sorte que les personnes qui nous écoutent et qui, elles, sont malheureusement restées en 2022 puissent faire une partie de ce voyage avec nous et voir tout ce qu'on voit, nous, en 2030 glorieuse. La première question que je te pose, Hélène, c'est toi, là, quand tu regardes par ta fenêtre, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, je vois beaucoup de nature. C'est peut-être bateau comme réponse, mais on a trop construit et on a vraiment un besoin de retourner à des choses plus végétales, plus naturelles. Vraiment, moi, j'imagine de la nature partout en 2030. Et beaucoup de sourires aussi. Je pense que c'est très, très important de s'imaginer ces 2030 glorieuses avec beaucoup de joie et de bienveillance. Sinon, pour moi, ça ne sert à rien. Et pourquoi pas des gens, justement, qui sont heureux de faire les choses, qui choisissent ce qu'ils vont faire et qui partagent beaucoup de moments ensemble. Donc, qui font la fête, pourquoi pas, qui montent plein de projets ensemble. Ce qui serait génial, c'est qu'on n'ait pas tous un seul métier, mais qu'on puisse en expérimenter énormément et qu'on puisse ne plus appeler ça un travail, mais pourquoi pas une activité ou même un engagement. Par exemple, tu fais quoi dans la vie ? Je suis engagée dans telle structure, dans telle autre structure, sur telle plateforme. Ça serait vraiment génial.
Ou même je défends telle cause et je le fais de plein de manières. Et c'est pas bateau du tout, hein, comme réponse que tu me fais, puisque je dirais qu'il y a au moins les trois quarts des personnes que j'interviewe qui répondent ça en premier, effectivement, qui ont besoin de vert, de végétal, de ce contact avec le reste du vivant. C'est vrai, on a de plus en plus repoussé, éloigné ce vivant hors de nos villes. Et à la fois, en disant, c'est fou tout le travail qu'on a fait. Hein. On est nous tous les deux à Lyon et ce travail il commençait à pointer le bout de son nez il y a presque 10 ans en arrière déjà, puisqu'il y avait de plus en plus de plantations d'arbres, de plus en plus de places de parking qui étaient rendues à la nature et donc débétonisées. On y mettait là aussi des arbres fruitiers, des fleurs, des zones pour que la biodiversité puisse reprendre ses droits, mais aussi des endroits où on pouvait créer des petits espaces pour les enfants, des zones pour le compost, des bibliothèques partagées. Et puis, il y a au fur et à mesure tout un tas de places qui étaient très bétonnées et qui, là, ont laissé la place à des jungles urbaines, des lieux où il y a même des zones de production, d'alimentation, parce qu'on a mis des buttes, parce qu'on a mis des bacs, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'initiatives d'agriculture urbaine qui se sont développées. Donc cette nature, elle était, c'est vrai, assez loin et elle est très très vite revenue, sans compter tous les projets très personnels ou collectifs. Et on voit aujourd'hui de ces balcons tout un tas de fruits, de légumes qui pendent, qui se développent. Ça pousse de partout et c'est un phénomène exponentiel.
Ça donne envie en tout cas.
Ouais, on y est et c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. On a aussi, comme tu le disais, pris de plus en plus de temps pour faire les choses ensemble et ce temps, il a fallu le reprendre et on l'a repris notamment à tous ces moments où on s'adonnait à ce qui apparaissait à l'époque comme le premier moyen de se faire de se donner du plaisir, c'était de surconsommer. On passait des heures et des heures dans des centres commerciaux, sur internet pour faire des achats en ligne. Aujourd'hui, on a recréé beaucoup de zones de gratuité dans nos vies et notre consommation, elle est devenue beaucoup plus raisonnée, raisonnable, mais aussi pour financer des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et notamment grâce au financement participatif. Comment tu peux nous dire à quel point le financement participatif est devenu normal dans nos vies en 2030 glorieuse et ensuite, j'aimerais qu'on en parle pour voir comment ça a radicalement changé le cycle de consommation.
Donc en 2030, le financement participatif est un des moyens principaux de lever des fonds pour réaliser un projet. Parce qu'en 2030, on ne regarde plus seulement la rentabilité possible d'un projet pour le financer. On regarde avant tout, en fait, l'intérêt qu'il va avoir pour le vivant et la communauté qu'il va réussir à mobiliser. Et en fait, les deux sont liés. Plus un projet va changer les choses, va nous mener vers un monde souhaitable qu'on a déjà, puisqu'on est en 2030, plus on va se mobiliser autour. Et effectivement, ça devient un des moyens principaux de financement pour les projets, parce que tout le monde veut redevenir acteur, veut redonner du sens à son argent et veut pouvoir décider de quels projets vont se réaliser sur un territoire précis. Et ce qui va un peu leur permettre de consommer justement de manière plus raisonnée, ou ce qui va leur permettre aussi d'être ensemble, parce que tous les projets ne permettent pas forcément de consommer, mais parfois juste de s'asseoir pour discuter sans forcément rien acheter.
Et je le disais, hein, ça a bousculé radicalement le cycle de consommation, puisqu'avant, pour vendre un produit, il y avait des gens qui d'un coup s'étaient dit dans leur coin « Ah bah tiens, on va absolument faire exister ça comme produit, ça tombe bien, en plus il n'y en avait pas, donc on va créer ce besoin pour les consommateurs et les consommatrices, et puis on va aller faire ça à l'autre bout de la planète, comme ça, ça va nous coûter le moins cher possible, on va mettre énormément d'argent dans la publicité, on va faire venir des stocks d'autres continents, et puis on va essayer d'écouler ça partout. S'il nous reste encore des stocks, ben on le fera disparaître idéalement avec les soldes, et puis si il en reste encore, ben, c'est pas grave, on le détruira, on l'enverra vers d'autres pays à l'autre bout de la planète. Et en fait, c'était un gaspillage monumental à toutes les étapes. Comment ça a changé cette manière de percevoir le produit, cette manière de percevoir le besoin de crowdfunding?
Oui, c'est vrai que là, on est plus sur une temporalité douce, en tout cas. Parce qu'avec, par exemple, le don avec ou sans contrepartie ou la prévente, ces deux formes de financement participatif, en contribuant, on n'a pas le produit ou le service directement. Ou en tout cas, c'est rare parce que c'est très lié à la réussite de la campagne ou au temps que le projet va mettre à se réaliser. Donc, on est plutôt sur un vrai besoin et pas une envie, parce que ça ne sert à rien d'acheter ou de contribuer à un projet si c'est une envie, parce que d'ici un ou deux mois, d'ici à ce qu'on reçoive notre contrepartie ou notre prévente, on n'en aura plus envie. Donc on remet vraiment le besoin au centre des choses, au centre de la consommation, avec une temporalité très douce. et on va économiser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en ne faisant pas de publicité. La seule chose qu'on va faire, c'est de la communication sur ces produits, sur ces services à développer, mais qui vont de toute façon partir d'un besoin réel, d'un constat établi. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on invite à faire, et ça, on le faisait déjà en 2022, c'est qu'on demandait à nos porteurs de projets de sonder un peu leur entourage pour vérifier que leur projet va bien intéresser les proches, ou en tout cas des personnes qui seront amenées à contribuer ou non. Et donc, en 2030, on fait toujours ça. On les invite à sonder leur entourage pour vérifier que le projet est pertinent, qu'il va intéresser, qu'il intéresse déjà, et que toute cette consommation va être toujours raisonnée, responsable et consciente.
On a remis, d'une certaine manière, de l'incertitude dans notre consommation et on a réappris à être patient. Et ça, finalement, bah, du coup, ça nous a poussé à remettre énormément de zones de gratuité dans nos vies. Hein, parce que, comme tu le disais, entre le moment où on participe à une campagne de crowdfunding et le moment où on tient notre contrepartie dans nos mains, bah, parfois, il y a beaucoup de temps qui se passe. Et donc, de temps en temps, on se dit, bon, alors là, en fait, comme tu le disais, tiens, c'est en fait sans doute une envie un peu folle et donc passagère. Tant pis, je reconsidère ça ou je n'écoute pas cette pulsion. Mais des fois, on a aussi besoin d'autre chose un peu plus rapidement et on se pose du coup la question de comment obtenir ce produit ou le service qui va avec. Et donc, on s'est posé la question de « Ah bah tiens, en fait, est-ce que j'aurais pas cet objet déjà chez moi et il faut que je re-regarde ?» Ou « Est-ce que je pourrais pas me le faire prêter ?» Ou « Est-ce que je pourrais pas le louer ?» Et donc, on a aussi remis l'accent sur les communs plutôt que sur la propriété. Grâce à ce système.
Oui, c'est très important et c'est vraiment une notion de communauté finalement, de se dire, alors pas de communauté fermée où personne ne peut arriver, hein, une communauté très ouverte, mais où chacun peut exprimer un besoin ou même une envie. Il n'y a pas de mal à avoir quelques envies de temps en temps, tant que ça ne pollue pas ou que ça ne crée pas des inégalités. Mais en tout cas, de se reposer sur ses voisins, sur ses amis, sur sa famille, un peu plus que ce qu'on faisait en 2022 où on était énormément et trop dans l'individualisme. C'est vraiment de recréer du lien pour être ensemble, pour s'entraider et pour évoluer ensemble.
Comment le crowdfunding, il a réussi à se dédigitaliser ? On avait, c'est vrai, cet outil Internet aux prémices du financement participatif qui ont aidé les porteurs et les porteuses de projets à se faire connaître, forcément auprès de leurs proches et de leur cercle un tout petit peu plus lointain, ça aurait pu se faire autrement, mais quand on doit toucher des personnes qui sont beaucoup plus là, loin, beaucoup plus inconnues, Internet était un beau levier pour parvenir à ses fins. Et à la fois, en 2030 glorieuse, le financement participatif étant devenu plus récurrent, plus régulier, il a fallu aussi le réancrer sur le territoire, le remettre dans nos vies physiques. Comment on a réussi à faire ça ? Est-ce qu'il y a des boutiques où on peut voir des produits témoins de ce qui est en train d'être financé ? Est-ce qu'il y a des caravanes de financement participatif ? Il y a des crieurs de projets qui sont en cours de financement ? Est-ce que des festivals ? Je ne sais pas, j'avais plein d'idées comme ça. Et toi, tu penses à quoi ? Tu me racontes quoi là-dessus ?
Des très bonnes idées auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Moi, je ne verrais pas forcément de lieu précis ou pourquoi pas que ça se passe sur la place de chaque village, de chaque ville, peut-être à des temps définis ou un peu n'importe quand justement, où des porteurs de projets vont échanger avec les passants, pourquoi pas, ça c'est déjà vu, pour parler de leurs besoins, de son projet qui vient répondre à ça et leur demander s'ils veulent contribuer ou pas. On pourrait imaginer aussi, tout simplement, ça va paraître archaïque, mais une sorte de tirelire sur la place de village ou en tout cas dans le sac à dos du porteur de projet. Le tout, c'est peut-être de rester en mouvement, justement. Alors, le festival, ça pourrait être ça aussi, parce que ce serait un événement ponctuel et une campagne de financement participatif, ça reste aussi un événement ponctuel. Mais j'aime bien cette idée de la place du village avec un porteur de projet ou plusieurs d'ailleurs qui vont échanger avec les passants, parce que ça peut concerner tout le monde. Du coup.
Est-ce qu'on pourrait pas, en fait, en t'écoutant, je pensais à ça, systématiser la présence des porteurs de projets de financement participatif dans les lieux, on va dire, communs de la consommation classique? Je m'explique. On pourrait très bien avoir des porteurs de projets qui lancent quelque chose lié à l'alimentation, qui présenterait un stand sur le marché le week-end. On pourrait très bien avoir des porteurs de projets culturels qui iraient plutôt, eux, se rapprocher des bars et faire des présentations en soirée. On pourrait très bien avoir des porteurs de projets qui iraient raconter ce qu'ils vont faire comme livre dans les librairies. En fait, on pourrait un peu hacker ces lieux de consommation directe pour aussi y remettre du temps long, non?
Tout à fait, et même au-delà de ça, ne pas limiter chaque intervention à chaque domaine d'activité. Par exemple, pourquoi pas parler d'un livre dans une épicerie, finalement, pour vraiment démocratiser cette idée que la culture est partout.
Ouais, ou sur une place de marché, parce que c'est un livre de recettes végétariennes et de saison, et comme tu le dis, créer un peu des ponts entre des objets qui, en fait... couvre plusieurs thématiques. En fait, ça recrée du lien. On ferait encore plus communauté, on se retrouverait dans ces lieux à se dire, ah bah tiens, c'est vrai, toi aussi, ça t'intéresse, cette thématique. Ah bah tiens, moi aussi, tu devrais venir. On en reparle, on boit un coup, on fait quelque chose ensemble. Dans des tiers-lieux qui s'appellent aujourd'hui, en 2030 Glorieuse, les fiers-lieux, on a, j'imagine, moi, tout à fait des vitrines à financement participatif et des agora pour les porteurs de projets qui viendraient toutes les semaines à des temps précis pitcher les projets en cours. On parlait même avec Alexandra de Bézieux qui travaille pour Rail Coop de locomotives qui pourraient ramener dans les gares tout un tas de services. Alors elle m'avait parlé de la santé, mais elle m'avait parlé aussi, pourquoi pas, de produits artisanaux. On peut imaginer aussi un train du crowdfunding qui, pour Zest ou plein d'autres plateformes, pourrait passer de gare en gare et proposer des produits qui sont en cours de financement. Enfin, c'est vraiment sans fin, en fait. Hein.
Exactement.
Ouais, ça donne envie. Toi, Hélène, tu fais quoi en 2030 Glorieuse?
En 2030 Glorieuse, je fais plein de choses. Je travaille toujours chez Zest pour accompagner des porteurs de projets. Et en parallèle, j'avance sur plein de projets. Par exemple, un projet de potager partagé, un projet de livre, un projet de randonnée, pourquoi pas, avec des personnes qui marchent très lentement. Ou en fait, on peut avoir tellement d'idées un peu loufoques ou terre à terre. Mais c'est ce que j'aimerais faire. Avoir le choix, en tout cas, de suivre mes envies à ce moment-là, parce que j'aurai ce temps et cette énergie.
La route, elle est encore longue, Hélène, hein, avant ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble. Et les personnes qui nous écoutent, je suis sûr qu'elles se sont dit « Ah bah ouais, bien sûr, ça donne envie, c'est évident, qu'est-ce qu'on attend ?» Et justement, toi, qu'est-ce que tu leur suggérerais comme action supplémentaire pour... dépasser le qu'est-ce qu'on attend, pour leur donner des leviers d'action immédiats et les faire advenir le plus vite possible ces 2030 glorieuses?
Alors, j'ai deux conseils. Le premier, c'est vraiment lié à ce qu'on fait de notre argent, c'est de se poser la question au quotidien, selon nos propres ressources, mais s'interroger sur ce qu'on en fait de cet argent. Comment on consomme, est-ce qu'on en a besoin, d'où ça vient, qu'est-ce que ça va devenir après. Ça va être aussi où on place notre épargne, et comme ça je refais le lien avec la nef, et aussi dans quel projet on investit, ou au-delà de l'investissement, à quel projet on va donner de l'argent sans forcément attendre de rentabilité, mais justement quel sens on donne à notre argent, est-ce qu'il faut forcément avoir quelque chose en retour, ou est-ce que pour nous c'est une façon de voter avec pour construire ce monde plus durable. Ça, c'est pour mon premier conseil. Et pour le deuxième, de façon plus générale, c'est de parler avec beaucoup de bienveillance et de joie, mais en tout cas de ne pas rester dans son coin pour ne pas rester seule avec ses interrogations sur cette transition, et de parler aussi de ses projets et de ses rêves. Donc c'est ce que tu proposes avec les 2030 Glorieuses, et ce qui est assez génial, mais en tout cas pour créer ce rêve collectif qui, en fait, s'il est partagé, va se faire. Et de parler de projet, parce que même ce qui peut donner l'impression d'être une idée un peu farfelue peut finalement se réaliser d'ici 3 ou 4 ans.
Merci Hélène.
Avec plaisir. Merci.
Et voilà, cet épisode avec Hélène Schmor est terminé. C'était un épisode qu'on voulait caler depuis longtemps, mais ça y est, c'est fait. Et je suis content parce que vraiment, dans un monde où encore, et beaucoup trop même, on continue à faire passer la consommation comme le seul moyen pour nous, les citoyens, les citoyennes, d'agir, parce qu'on nous présente des alternatives plus durables, plus réparables, sans déchets, bio, plus locales, etc., etc. Et ben, on nous donne l'impression que ça y est, en fait, on va pouvoir remplir nos placards différemment, on va pouvoir manger différemment, et que c'est un peu les seules choses qu'on a à notre portée. Alors qu'en fait, pour moi, en tout cas, reprendre le pouvoir de ma consommation, ça a été le premier moyen de me rendre compte à quel point on avait, au contraire, tout un tas de leviers autour de nous pour agir. Et donc, je trouve que, en plus de créer cette relation au temps, à la patience, ce questionnement de nos envies, comme on l'a dit aussi avec Hélène, mais aussi de remettre au maximum tout un tas des zones de gratuité, mais aussi des manières d'emprunter, de louer, bref, tout un tas de choses, de distance, j'allais dire presque, avec notre consommation pour la dépasser. Le crowdfunding, c'est vraiment un des leviers forts pour aller dans ce sens, et ça fait longtemps que j'avais envie de le mettre dans vos oreilles. Ça peut être vu, c'est vrai, comme une nouvelle manière de continuer à faire tourner la grande roue de la surconsommation, mais pour moi, si on le considère avec recul, avec distance et vraiment avec le pouvoir que ça peut avoir, alors là, on se rend compte que c'est une bonne manière d'hacker justement ce pouvoir d'achat dans lequel on nous a enfermés. Et j'espère que vous l'aviez déjà compris comme ça, que vous l'utilisiez déjà comme ça, et que si c'est pas le cas, et ben cet épisode, ça va vous donner l'occasion aussi de, comme vous le conseillez Hélène en fin d'interview, de vous questionner vraiment sur l'argent que vous utilisez, sur son pouvoir et sur comment vous pouvez redécider au maximum dans tous les interstices de notre quotidien d'utiliser cet argent pour faire des choses qui font émerger les 2030 glorieuses plutôt que de faire tourner encore et encore et encore cette grande roue de la surconsommation qui doit être arrêtée le plus rapidement possible. Merci, merci, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et forcément je vous dis à très vite pour une nouvelle interview en 2030 glorieuses. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !